Bien, je voudrais vous inviter à chercher dans notre Bible le prophète Ézéchiel. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 22, et le verset 30. Ézéchiel chapitre 22, verset 30.
Amen.
Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Prions, s'il te plaît. Seigneur, je te demande maintenant de bénir ta parole, de la faire agir dans notre cœur. Nous aider à voir ces choses, Seigneur, comme toi tu les vois. De reconnaître les besoins criants et d'être prêt, Seigneur, à répondre à ton appel. Seigneur, je prie vraiment que tu nous encourages tous à voir ce que nous pouvons faire de plus pour toi, comment nous pouvons œuvrer avec toi, Seigneur, afin justement que les gens autour de nous et les villes même ne sont pas détruites par ton jugement. Donc, venez maintenant, Seigneur, ces moments de prédication au nom de Jésus-Christ.
Amen.
Amen. J'aimerais partager quelques extraits des personnages que vous connaissez déjà bien, mais qui vivaient pendant les périodes de réforme, juste peu avant la réforme, au début en tout cas, et qui sont en fait ceux qui nous ont précédés dans la foi, et des hommes qui ont accompli vraiment beaucoup pour le Seigneur, avec très peu de moyens, et même avec très peu de temps. Par exemple, je pense à cet homme, Conrad Grebel, qui s'est converti en 1523. Il s'est fait baptiser 2 ans plus tard, suite à l'étude approfondie des Écritures, et il s'est mis aussitôt à prêcher, à annoncer l'Évangile et à crier contre tous les erreurs et les abus de l'Église officielle de l'époque. Et un an plus tard, un an après son baptême, il est mort. Je pense à Félix Mainz, qui a été baptisé en même temps que Conrad Grebel en 1525, qui a aussi prêché avec beaucoup de zèle, se mettait parfois même devant les églises officielles pour élever sa voix contre les erreurs qui étaient enseignées au sein de l'église officielle. Et donc il n'a pas fallu longtemps pour qu'il soit arrêté, et puis lui aussi, en 1527, 2 ans après son baptême, il fut mis à mort. Je pense à Georges Bleurock, qui était aussi converti, baptisé au même temps que ses autres hommes, qui était un prédicateur courageux, qui prêchait souvent en plein air. Une fois même, peu de temps après son baptême, il est entré dans une église réformée, l'église protestante donc, pour empêcher le ministre de monter dans la chaire, et puis il a prêché sa place. Eh bien, ça ne lui a pas attiré beaucoup de travers de la part des autres, surtout ceux qui dirigeaient l'Église, le pays. Et donc, il n'y a pas longtemps après, lui même aussi était arrêté, torturé pour divulguer le nombre d'anabaptistes qui se trouvaient dans la région. Et puis, en 1529, lui était aussi mis à mort. Quand je pense, et la liste en est longue, hein, c'est quelques exemples tirés de l'histoire de Baptiste, mais quand je pense à ces hommes qui, dans l'espace de quelques années seulement, pour certains un an après le baptême, pour d'autres 2-4 ans, étaient déjà morts à partir, et puis on considère ce qu'ils ont accompli en si peu de temps et avec si peu de moyens par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Je me demande vraiment si Dieu devait chercher un homme aujourd'hui pour se tenir dans la brèche, si en fait il en a un dans notre société, il pourrait faire la mesure de ces hommes-là. En tout cas, dans notre texte sur Ézéchiel, nous voyons que Dieu est à la recherche, que Dieu cherche toujours un homme, une femme, des chrétiens, qui soient prêts à être des ouvriers pour lui. Et la question que je me pose, la question que chacun d'entre nous doit se poser, est-ce que je suis vraiment un ouvrier pour lui? Suis-je un tel homme, un tel chrétien? Alors, j'aimerais partager trois raisons pourquoi nous devons devenir des ouvriers pour Dieu, on trouve dans notre texte là. Mais d'abord, c'est à cause de la recherche des ouvriers, la recherche d'ouvriers. Alors, la première phrase du verset, c'est Dieu qui parle et c'est Dieu qui dit « Je cherche parmi eux un homme ». Donc d'abord, nous voyons que c'est une recherche menée par Dieu. C'est nul autre que Dieu lui-même qui cherche cet homme. En fait, comme nous savons dans le passage du Nouveau Testament, le passage dans 2 Timothée, il dit que nous sommes enrôlés par Dieu. C'est Dieu qui nous enrôle dans son armée. Et c'est une vérité que nous ne devons jamais oublier. Puisque lorsque on se met au service du Seigneur, il faut bien oublier que c'est lui-même qui nous enrôle. Donc on travaille pour lui, on travaille pour Dieu. Non pour un homme, ni pour une église. Et c'est capital parce que si en effet notre service est motivé quelque part par rapport aux hommes, par rapport même à l'église, on va être vite déçu. Il ne faut pas attendre longtemps pour être contrarié par quelque chose, par quelqu'un, d'être déçu par les réactions des autres, de se donner beaucoup de peine pour accomplir des choses et puis ne pas être reconnu, remercié. Et donc, si on fait ces choses parce qu'on dit, voilà, notre église cherchait quelqu'un, enfin, notre pasteur cherchait quelqu'un, alors je me suis engagé, et puis voilà, ça n'a pas marché, j'étais déçu, on ne m'appréciait pas, pas évidemment. Parce que l'Église dit que c'est Dieu qui cherche les ouvriers. Et si on va répondre à son appel, si on veut devenir vraiment un ouvrier, c'est d'abord pour lui, c'est pour Dieu. En fait, dans l'évangile des Jean, Jésus-Christ a bien dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous portiez le fruit. Donc, c'est une recherche menée par Dieu, et c'est une recherche continuelle, comme on voit dans le texte, là, il dit, je cherche parmi nous, pas j'ai cherché, pas je vais chercher, je cherche au présent. Et dans chaque génération, on peut dire, Dieu cherche, il est toujours à la recherche. Toujours à la recherche d'un homme, d'une femme qui soit prêt à devenir un ouvrier pour lui. Et malheureusement, la constatation dans chaque génération est toujours décevante. Si on regarde en Jérémie chapitre 5, on voit cette même idée, cette même notion, Dieu cherche quelqu'un pour finir dans la brèche. Jérémie chapitre 5, verset 1. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places si s'y trouve un homme. S'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. On peut dire vraiment que dans chaque génération et dans chaque ville, dans chaque quartier même, Dieu cherche un ouvrier. Dieu cherche un homme pour se tenir à la brèche, pour élever un mur pour lui. On doit vraiment se poser la question, si Dieu cherchait dans mon quartier, me trouverais-je? Il me trouverait en train d'ouvrir pour lui, d'entrer avec lui. Est-ce qu'il pourrait compter sur moi? En 2 Timothée, dans le Nouveau Testament, on voit le même principe exprimé par l'apôtre Paul en 2 Timothée, chapitre 2 et verset 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Et donc, en chaque génération, Dieu est à la recherche d'autres hommes, d'autres chrétiens, d'autres ouvriers pour répondre à son appel. Donc, nous voyons d'abord qu'une raison que nous devons être prêts à devenir un ouvrier pour Dieu, c'est qu'on se recherche d'ouvriers, cette recherche constante de la part de Dieu. Deuxièmement, une autre raison qu'on peut retirer de notre texte en Ézéchiel, c'est à cause du travail des ouvriers. À cause du travail des ouvriers. Donc, en Ézéchiel, 22, verset 30, il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Donc, juste entre parenthèses, j'aimerais dire que, en effet, lorsqu'on va dire à Dieu, voilà, Dieu, je suis disponible, je suis prêt à œuvrer pour toi, enfin, il faut reconnaître que c'est du travail. Et je crois justement c'est là qui décourage beaucoup, qui empêche beaucoup à s'enrôler, à s'engager dans son armée, c'est parce que justement c'est du travail. Et honnêtement, nous sommes, je crois vraiment en faire partie. Enfin, nous sommes dans une société, dans une génération qui ne sait plus travailler. Et on subit ces influences sans même pas s'en rendre compte, mais on a vraiment la vie facile et on cherche toujours plus de facilité. Et ça influence aussi la mentalité des chrétiens, et c'est vraiment lamentable. Et donc, à cause du travail des ouvriers, mais ça devrait nous motiver, nous encourager, nous envoler, parce que d'abord, nous voyons que c'est un travail constructif. Un travail constructif. Alors, il dit là, un homme qui élève un mur. Un homme qui élève un mur. Alors, bon, je vais dire tout de suite, ça ne veut pas dire que dans le ministère, dans le service du Seigneur, tout est positif. Ce n'est pas ça. Je pense justement à l'appel de Jérémie, en Jérémie chapitre 1er, parce que parfois pour construire, il faut d'abord balayer, parfois il faut défricher le champ, il faut cultiver, il faut arracher parfois. Et en Jérémie chapitre 1er, verset 10, Dieu dit à Jérémie, regarde, je vais établir aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc avant de pouvoir partir, il est fallu que Jérémie prépare le champ et qu'il arrache les mauvaises herbes, qu'il détruit contre les erreurs de son époque. Et donc, dans chaque génération, c'est pareil. On l'a dit en quittant les anciens d'Éphèse, il dit, écoute, je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups cruels, qui s'élèvera parmi vous des hommes qui ont fait des choses pernicieuses. Et donc, chaque ouvrier de Dieu a cette responsabilité de crier contre les erreurs et d'être prêt à arracher les mauvaises herbes qui croient si facilement au sein même de l'Église. Mais ça ne veut pas dire encore que ce n'est pas un travail constructif. C'est toujours dans le but de pouvoir élever un édifice stable, un édifice sûr. Et c'est vraiment un travail constructif. Lorsqu'on regarde encore Ézéchiel, il y a un homme qui élève un mur. Et je pense tout de suite à l'exemple de Néhémie. Lorsque l'ennemi a appris la condition de Jérusalem, il a appris que les murs étaient détruits, des brèches partout dans les murs, dans l'enceinte de Jérusalem. Et donc, il est retourné dans cette ville pour justement élever un mur. Et je pense à cet exemple-là parce que pour élever un mur, eh bien, il y a toutes sortes de choses qui viennent pour nous décourager. Même si on sait que c'est un bon travail, l'ennemi est convaincu de ce qu'il faisait, et un travail nécessaire, un travail voulu par Dieu, un travail béni par Dieu. Mais ça ne voulait pas dire qu'il n'y ait pas d'obstacle. Et si on peut regarder en Néhémie chapitre 4, pour regarder quelques-uns de ces exemples, Néhémie chapitre 4, et honnêtement, je peux entendre les remarques même des chrétiens, même des serviteurs de Dieu, dans les remarques que Néhémie écoutait de part des autres. Mais en Néhémie chapitre 4, et le verset 10, Néhémie chapitre 4, verset 10. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent des fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. En même temps, j'entends les mêmes échos encore aujourd'hui. Les chrétiens disent, mais on n'arrivera jamais à lever ce mur parce que, regarde, il y a trop d'écombres, il y a trop d'obstacles, trop de difficultés, trop de gens qui ne veulent pas s'engager, trop de besoins à remplir, et encore, sans parler de l'opposition qui vient de l'extérieur. Et donc, les gens qui sont prêts à dire que ce n'est pas la peine de commencer, ce n'est pas la peine d'essayer parce que, regarde la réponse des gens. Enfin, encore, et 99 gens sur 100 ne veulent pas nous écouter, c'est pas la peine, regarde, c'est trop difficile, il y a trop d'obstacles. Et on a vu, il y a beaucoup de gens qui disent, il y a des pasteurs et des missionnaires qui disent, ce n'est pas la peine, c'est pas la peine de prêcher la parole, c'est pas la peine vraiment d'évangéliser, parce que les gens ne répondent pas. Ça les intéresse pas. On n'a jamais arrivé à élever ces murs. Et donc, même avant de commencer, ils sont prêts à chasser une vache. Tandis que Néhémie, lui, il est convaincu que ce qu'il faisait valait la peine. Que ce qu'il faisait, ça faisait partie de la volonté de Dieu. Et même si les obstacles, Néhémie était certainement réaliste, il voyait bien l'obstacle. Mais ça n'empêchait pas de persévérer, de continuer pour la gloire du Seigneur et on va laisser les résultats à Dieu. Mais en fait, Dieu a béni son travail. Et c'est pas étonnant. Encore plus loin, au chapitre 6, toujours en Néhémie, chapitre 6 maintenant. Une autre sorte d'obstacle qu'ils ont fait à élever ce mur, mais en Néhémie, chapitre 6, verset 1er. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyaient dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse, j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Donc, Néhémie aurait pu être facilement détourné de ce travail. Il y avait des gens qui cherchaient justement à l'empêcher. Et encore aujourd'hui, lorsqu'on va élever un mur pour Dieu, il y a toujours des gens qui viennent mal intentionnés ou bien intentionnés, mais qui veulent occuper parfois notre temps, qui veulent nous faire engager dans des projets qui en fait n'ont vraiment pas d'importance aux yeux de Dieu. Et qu'ils en passent beaucoup de temps à faire des choses qui ne vont pas forcément des péchés, mais on ne construit plus. Notre travail est interrompu parce qu'on est tiré à droite et à gauche pour toutes sortes de choses, des choses encore une fois intéressantes, des choses qui peuvent être utiles, mais pas des choses nécessaires, pas des choses prioritaires. Et donc, Néhémie, il dit, écoute, j'ai un grand ouvrage à expliquer. Je n'ai pas le temps de faire ce genre on peut jouer à droite et à gauche, je passe mon temps à discuter avec ces gens-là. Et donc, il avait vraiment cette optique, cette vision claire de la volonté de Dieu, et il restait vraiment fidèle. Il était vraiment un ouvrier pour Dieu. Il avait un mur élevé, et rien n'allait l'empêcher. Donc, c'est un travail constructif, mais c'est aussi un travail préventif. En fait, lorsqu'on retourne à Ézéchiel, notre passage, Dieu dit qu'il cherche cet homme qui va élever ce mur, qui va se tenir à la brèche devant lui en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Afin que le pays ne soit pas détruit. Et donc, c'est un travail aussi préventif. Alors, c'est préventif grâce à l'intercession des ouvriers. Dieu dit qu'il cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche devant lui en faveur du pays. Donc, quelqu'un qui va intercéder pour le pays. Quelqu'un qui va intercéder pour sa ville. Quelqu'un qui va intercéder pour son quartier. Quelqu'un qui va intercéder pour son église. Dieu cherche ce genre d'ouvrier. Quelqu'un qui va se tenir à la brèche. Le premier exemple qui m'est venu à l'esprit, on pense à cette vérité, c'était l'exemple de Moïse. Parce qu'il était quelqu'un qui savait intercéder, qui était un intercesseur fidèle. C'était Moïse. Combien de fois Dieu était prêt à frapper Israël, même jusqu'à les exterminer. Et Moïse est intervenu en disant, mais Dieu, pense à ton grand nom. Seigneur, pense à ce que tu as déjà fait pour ce peuple. Le mur n'est pas encore élevé. Donne-lui encore du temps, Seigneur. Moi, je ne l'abandonne pas, Seigneur. Je suis là, je suis à la poste. Alors, continuons à travailler avec ce peuple. Et donc, Dieu dit au sujet de Moïse, on est psaume 106. Psaume 106, verset 23. On trouve justement cette remarque faite au sujet de Moïse. Psaume 106, verset 23. Et il parla, c'est-à-dire c'est Dieu qui parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Exactement ce que Dieu cherche. Un homme qui se tient à la brèche en faveur des autres. Et donc Dieu a écouté Moïse. Et on voit que c'était vraiment un travail préventif. Moïse a pu empêcher la destruction de ce peuple de faire son intercession en son faveur. Mais c'est aussi un travail préventif grâce à ce ministère de réconciliation. Non seulement on doit prier pour notre ville, on doit prier pour notre quartier, on doit prier pour notre église, mais évidemment, il faut continuer à prêcher la parole de Dieu, il faut annoncer la parole pour que les gens se tournent vers le Seigneur. Quand Jonas a été appelé par Dieu pour prêcher l'évangile dans Ninive, Jonas est allé contre terre, mais il allait quand même prêcher la parole. Il y a 40 jours encore. 40 jours, cette ville sera détruite. Mais grâce à sa prédication, les gens ont pris ça à cœur, ils ont été touchés, convaincus, et ils se sont repentis. Et la ville était épargnée encore une fois. Dieu n'a pas détruit cette ville. Je pense à l'exemple de Lot. Il y avait Abraham qui était prêt à intercéder pour son neveu. Abraham était pris à cœur cette ville où habitait son neveu, parce qu'il ne voulait pas voir ni David, ni son neveu détruit par le Seigneur. Mais Lot, de son côté, il s'est conclu dans le monde. Lot, il avait perdu cette vision complètement. Il était engagé, il était à la porte de la ville, en train de discuter avec les gens, comme les gens qui lui demandaient l'ennemi de descendre de son travail pour discuter avec eux, passer le temps, faire des choses. Et Lot, il s'est fait influencer par cela. Et donc Lot, il était certainement un homme actif, c'était pas forcément un homme oisif, mais il avait complètement perdu la vision. Il ne faisait plus rien pour œuvrer pour Dieu. Et quand Abraham a intercédé pour cette ville, il a dit, mais Dieu, si tu trouves que 10 personnes justes, que 10 justes, Dieu, pourrais-tu épargner cette ville? Et Dieu a dit, oui, pour 10 justes, j'épargnerai la ville. Je pense que Dieu le disait, quel est ta culte? Mais si Lot avait seulement gagné sa propre famille, ça aurait été 10 personnes. Seulement sa propre famille, avec ses filles, sa femme, ses fils, et ses filles mariées avec les gens, ça faisait 10 personnes. Si seulement Lot avait gagné sa propre famille, Dieu aurait épargné toute la ville de Sodome. Mais il n'a pas fait. Et donc, ce que Dieu cherche, ce sont des hommes, des chrétiens, qui soient prêts à œuvrer pour lui, de par leur intercession, d'intercéder pour leur ville, intercéder pour leur église, intercéder pour leur bien-aimé inconverti, et de continuer à prêcher la parole pour que ces gens soient réconciliés avec Dieu, les avertir de la part de Dieu, de les encourager à venir au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Donc, nous voyons que nous devons être prêts à devenir des ouvriers pour Dieu à cause de recherche menée par Dieu pour les ouvriers. À cause de ce travail, les ouvriers, un travail constructif, un travail préventif. Et aussi, une troisième raison, c'est à cause de la rareté des ouvriers. La rareté. Dieu est obligé de dire en Ézéchiel qu'il cherchait cet homme, qu'il soit prêt à travailler pour lui, et il doit conclure, mais je n'en trouve pas. Malheureusement, ce n'est pas un commentaire isolé dans la Bible. Si on regarde dans Ésaïe, chapitre 59, on lit la même triste constatation. Ésaïe, chapitre 59, et le verset 16. Ésaïe, chapitre 59, le verset 16. Ésaïe est arrivé à la même triste conclusion. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne intercède. Alors son bras lui tend l'aide et sa justice lui sert d'appui. Encore dans le Nouveau Testament, en Luc chapitre 10, un passage très bien connu, Luc chapitre 10, après tant de siècles, après avoir plaidé tant de fois avec son peuple, Jésus-Christ, qui vient des siècles plus tard, doit encore faire la même observation. En Luc chapitre 10, verset 2, Jésus-Christ dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Priez donc, intercédez pour que le Seigneur suscite encore davantage d'ouvriers pour envoyer dans sa moisson. Parce que... Et donc, on peut voir que, à travers tout le temps biblique, il existait cette manque d'ouvriers, cette rareté de trouver vraiment un homme qui reste fidèle, un homme qui se tient à la brèche, un homme qui intercède, un homme qui prêche la parole. Et donc, qu'en est-il de notre époque? Si Dieu devait se prononcer sur votre ville, sur votre quartier, si il disait, alors, dans votre quartier où vous habitez, je cherche un homme, je cherche un chrétien qui soit prêt à répondre à mon appel, qui soit prêt à se mettre à mon service, dans votre quartier, je cherche quelqu'un, est-ce qu'il serait obligé de dire, et je n'en trouve pas. En fait, force est de constater qu'en France, le besoin est toujours criant. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les statistiques en France pour vous convaincre de manque d'ouvriers dans ce pays. Par contre, j'aimerais vous dire que le traitement n'est pas encore terminé. Le temps n'est pas encore trop tard pour que d'autres s'engagent, pour que d'autres s'élèvent en disant, Seigneur, même si je suis un peu seul pour le moment, Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je veux œuvrer pour toi. Je veux être cet homme qui élève ce mur. Même s'il y a beaucoup d'autres qui ne voient que des obstacles, Seigneur, moi, je suis prêt à persévérer pour toi. Parce que c'est un travail qui vaut la peine, Seigneur. C'est le travail le plus glorieux qui soit. C'est la chose la plus importante qui soit. Seigneur, tu peux compter sur moi. Par ta grâce, je m'enrôle vraiment dans ton travail. Et donc, mes amis, quelle est votre décision? Nous sommes entrés vraiment dans un héritage très très riche. Je ne sais pas si vous passez du temps à lire l'histoire des chrétiens qui nous ont précédés. Ça vaut la peine de lire ces histoires de ces anabaptistes, d'autres hommes, de leur genre, de leur calibre, qui ont accompli beaucoup pour le Seigneur, en très peu de temps, avec si peu de moyens, parce qu'ils étaient prêts à dire, Seigneur, moi, je vais me tenir à la tâche. Et donc, je me demande, où donc est passé ce calibre là? Y en a-t-il parmi nous ce matin qui sont prêts à dire, Seigneur, je veux que nous vivions de toi? Seigneur, je te loue parce que tu es un Dieu miséricordieux et un Dieu fidèle. Dieu qui ne cesse de déverser sur nous des bénédictions d'abondance. Mais Seigneur, il y a aussi un danger en cela, c'est comme les gens qui nous entourent dans cette société, on soit toujours prêt à recevoir, qu'on devienne des consommateurs, et qu'on oublie que nous sommes appelés à donner pour toi, à travailler pour toi, Seigneur. Que tu cherches encore aujourd'hui, et surtout dans ce pays, les ouvriers qui s'élèvent et qui disent, voilà Seigneur, me voici, je veux élever ce mur avec toi. Je veux œuvrer pour toi, Seigneur. Bon, Seigneur, je pense vraiment à cette question. Si Dieu devait chercher dans notre quartier, l'ouvrier, serait-il obligé de dire, je le prie? Donc Seigneur, c'est évident, tout le monde ici sait qu'il y a des obstacles, tout le monde sait que c'est un champ difficile en France. Tout le monde sait qu'il manque d'ouvriers. Mais tout ça ne devrait pas nous empêcher de nous engager dans le ministère le plus important qui soit. De s'aimer pour des choses qui vont compter pour l'éternité. Au lieu d'être distrait par tant de choses qui n'ont vraiment pas d'importance. D'être découragé par les gens qui voient trop facilement les obstacles et qui perdent justement cette vision, Seigneur, que tu veux leur accorder. Pour ça, je prie vraiment que dans ce groupe ce matin, qu'il s'élève encore des uns, des femmes, des chrétiens, qui veulent devenir vraiment des ouvriers pour toi. Seigneur, agis dans chacun. Je prie vraiment, Seigneur, que s'il y a quelqu'un ce matin qui a ce désir, s'il y a quelqu'un qui veut vraiment répondre à ton appel, Seigneur, pour être ouvrier pour toi, que tu les encourages à ce désir, qu'ils viennent trouver ta part, Pasteur Dolbert, notre pasteur, Seigneur, pour partager ce désir, pour prier ensemble, pour connaître ta volonté. Seigneur, je prie vraiment que tu nous pousses à l'action. Donc, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta patience à notre égard. Tu es vraiment Dieu. Bon. Au nom de Jésus-Christ.